On va faire un test. Est-ce que vous entendez bien? Si jamais vous entendez moins, je vous prierai quelqu'un de lever la main. On va faire un test. Est-ce que présentement vous entendez bien? Parfait. Merci beaucoup. Bon, ça va être enregistré, c'est ce que je dis là, oui. Ça me fait plaisir, bien sûr, de me retrouver avec vous autres pour lancer l'année 2016-2017. Le thème de l'année, c'est « Montre-nous le chemin ».« Montre-nous le chemin », c'est une réalité que je vis de temps en temps à Saint-Roch, surtout durant l'été. Quand je vois des touristes qui sont au coin d'une rue avec une carte pour chercher leur chemin, j'essaie de leur donner les bonnes indications. Quand c'est en anglais, j'ai plus de misère un peu, mais je finis toujours par leur donner une bonne route. Sauf que c'est arrivé quelques fois où j'ai donné de mauvaises indications. Et par après, je me suis rendu compte, en passant par là, que je leur avais pas donné la bonne indication. Alors, ils ont dû se dire, ces Québécois-là, ils pensent qu'ils savent où ils sont, où ils vont, mais ils savent pas grand-chose. Ce matin, je vais essayer vraiment de développer ce thème-là, « Jésus nous montre le chemin » pour que nous sachions tous ensemble où aller, d'où on vient, où on va. Voilà. J'ai pensé commencer notre rencontre par une prière, prier un psaume. Le psaume 142. Je vais d'abord vous dire un peu le contexte de ce psaume-là. Dans ce psaume, à un moment donné, je vais insister quand ça y arrivera, c'est écrit, c'est dit, « Seigneur, montre-moi le chemin que je dois suivre. » Mais c'est important de connaître le contexte, je pense. Ce psaume, c'est la prière du roi David. Le roi David qui a été un grand roi pour le peuple juif, qui est l'ancêtre de Jésus, et qui a vécu aux environs de l'an 1000 avant Jésus, je pense. Mais là, moi, là-dessus, je ne suis pas ferré trop. Là. Mais l'histoire, c'est la suivante. C'est que David, la prière qu'il fait, c'est alors qu'il est poursuivi par son fils Absalom. Absalom, c'était pas un enfant de cœur, comme on dirait. Absalom a voulu tuer David et prendre sa place. L'histoire, c'est une histoire de famille. Absalom avait un frère qui s'appelait Amnon. C'est le fils aîné de David. Mais il y avait de la chicane entre les deux. Et Absalom détestait son frère au point où il l'a fait assassiner. Puis après ça, Absalom a décidé de lever une armée pour marcher contre son père, le roi David, pour prendre sa place. C'est ça le contexte du psaume de ce matin. Et quand on le sait, ça nous permet de comprendre la prière que David a faite au moment où il était en fuite pour s'en aller, pour s'éloigner de son fils Absalom qui voulait le tuer. Quand on écoute ce psaume-là, c'est aussi une prière que nous pouvons faire nous autres aussi. C'est une prière que nous pouvons faire peut-être dans nos moments d'angoisse, de détresse, de grande peine. Cette prière, on peut penser que David la faisait au matin. Parce que comme le note la Bible de Jérusalem, l'heure du réveil matinal, c'est un moment privilégié pour s'adresser au Seigneur dans la prière. Il est aussi un temps de justice et l'aurore, ça symbolise, et la lumière qui apparaît symbolise la présence de Dieu. C'est donc un psaume aussi qu'on peut prier le matin, si on le veut. Alors, ce que je vous suggère, c'est que nous commencions par ce psaume qui est une prière et que nous en faisions, nous autres aussi, notre prière. Seigneur, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Dans ta fidélité, réponds-moi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur parce que aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi cherche ma perte, Contre terre, il écrase ma vie. Il me fait habiter les ténèbres comme ceux qui sont morts à jamais. Le souffle en moi s'éteint, mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je me souviens des jours d'autrefois, je me redis toutes tes actions. Sur l'ouvrage de tes mains, je médite. Je tends les mains vers toi, mon âme est une terre assoiffée devant toi. Vite, vite, réponds-moi, Seigneur, je suis à bout de souffle. Ne cache pas loin de moi ton visage. Je serai de ceux qui tombent dans la fosse, là où on enterre les morts. Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi. Montre-moi le chemin que je dois prendre. Vers toi j'élève mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur, j'ai un abri auprès de toi. Apprends-moi à faire ta volonté, car c'est toi, mon Dieu. Ton souffle est bon, il est bienfaisant. Qu'il me guide sur une terre unie. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre. À cause de ta justice, tire-moi de la détresse, car moi, je suis ton serviteur. Amen. Alors, comme je vous le disais, cette prière de David, ce matin, nous la faisons nôtre. Mais avant de nous arrêter pour voir comment Jésus nous montre le chemin, je pense qu'il y a comme deux conditions préalables pour suivre le chemin que Jésus nous montre. Et, comme dans tout le restant de l'entretien, ces deux conditions, je les retrouve dans la Bible. Je vous en donne deux exemples. Le premier exemple, c'est celui de Samuel. Vous connaissez sans doute l'histoire du jeune Samuel qui était dans le temple et qui était protégé, si on veut, qui vivait avec le prophète Élie. Par trois fois, le jeune Samuel entend son nom, Samuel, Samuel. Puis, pensant que c'est Élie qui l'appelle, il s'en va voir Élie qui est couché. C'est la nuit, ça se passe. Et Élie dit, « Non, je ne t'ai pas appelé. Va te coucher. » Samuel retourne se coucher. Une deuxième fois, « Samuel, Samuel. » Alors, il part pour aller voir Élie. « Qu'est-ce qu'il y a, père Élie? Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Une troisième fois, Samuel, Samuel, il arrive auprès d'Élie, et là, Élie pense que c'est le Seigneur qui peut appeler Samuel. Alors, il lui dit, « Retourne te coucher, et si tu entends encore l'appel, tu répondras, « Parle, Seigneur, ton serviteur, écoute. » C'est à partir de là que Samuel, en suivant l'appel du Seigneur, a été attentif aux appels qu'il lui a faits tout au long de sa vie. Un deuxième exemple qui est pris dans le Nouveau Testament, c'est l'appel des premiers apôtres, Simon, André, Jacques et Jean. Quand Jésus passe sur le bord du lac de Génézareth et qu'il les voit et qu'il les appelle, « Suis-moi, suivez-moi », aussitôt il laisse tout, et ils suivent Jésus. La première condition, donc, pour suivre le chemin que Jésus nous montre, c'est d'être attentif à ses appels. Tout ce que nous voyons dans l'Écriture, et je vais le signaler au long de l'entretien, mais ça s'applique à nous autres aussi. C'est donc important de voir que pour suivre Jésus, il y a deux conditions préalables. La première, suivre son appel. La deuxième, après avoir répondu à l'appel du Seigneur, c'est qu'on devient capable de reconnaître sa voix. Quand Samuel entendait l'appel et qu'il allait voir Élie, ils ne connaissaient pas la voix du Seigneur. Ils ne savaient pas qui était le Seigneur. Mais une fois que Élie lui a dit, « Tu diras, parle, Seigneur, ton serviteur écoute », Samuel a compris à ce moment-là, a su quelle était la voix du Seigneur, à quoi ressemblait la voix du Seigneur. De sorte que par la suite, quand il entendait cette voix intérieurement, il savait que c'était la voix de son Seigneur. La deuxième condition, c'est donc d'être habilité, de reconnaître la voix du Seigneur quand il nous appelle, de sorte que lorsque des appels subséquents plus tard arrivent, on est capable de reconnaître que c'est le Seigneur qui nous parle parce que nous reconnaissons sa voix. Dans le Nouveau Testament, c'est la même chose qui se produit pour les disciples. Bien sûr que Jacques, Jean, Pierre et tous les autres, les apôtres comme les disciples, qui marchaient avec Jésus, qui l'entendaient parler, ça n'a pas pris de temps pour reconnaître sa voix. C'est la même chose pour nous autres. Les gens qui nous connaissent bien nous reconnaissent à la voix. De sorte que si jamais un jour je vous arrivais ici et que je n'avais plus de barbe, vous ne me reconnaîtriez pas. Mais à la voix, vous dites, « Ah, André, qu'est-ce que tu as fait? » Parce que cette expérience-là m'est arrivée il y a très longtemps. J'étais très ami, très proche avec un professeur du collège, et même, c'était quelqu'un avec qui je faisais du scoutisme. Et au début de l'année scolaire, il est arrivé, il s'était fait couper la barbe au complet. J'entre à l'école avec lui, puis j'ai dit, « Vous êtes un nouveau professeur? » Et lorsqu'il m'a parlé, mais j'ai dit, « Richard, je t'ai pas reconnu. » Mais à la voix, je l'ai reconnu. C'est la même chose que Jésus explique aux disciples dans une parabole que vous connaissez bien, la parabole du bon berger. Lorsque le berger a fait sortir ses brebis, il marche à leur tête et elles le suivent. Pourquoi? Elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, bien plus elles le fuiront parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Les bergers suivent, les brebis suivent le berger parce qu'elles connaissent sa voix. C'est la même chose pour nous autres. Dans notre vie, on entend des appels de Jésus. Des appels de Jésus, il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui nous jette à terre, puis qu'à un moment donné, on devient comme figé. Non. La plupart du temps, les appels de Jésus nous arrivent par la voix de l'Esprit-Saint. Et de quelle façon ils fonctionnent? Ils fonctionnent par des inspirations, c'est-à-dire qu'ils nous donnent des bonnes idées. Des bonnes idées que l'on accepte ou qu'on peut simplement laisser de côté. Des bonnes idées qui peuvent ressembler à... Aujourd'hui, je pourrais aller visiter une religieuse que je connais bien, Sœur Saint-François d'Assise. Je pourrais aller faire un tour pour aller la visiter. Ça m'est arrivé hier. J'arrivais du garage pour faire changer de ville de mon auto. Et en passant pas loin de chez elle, je dis, « Ah, je pourrais aller voir Martha. » J'ai un peu hésité, puis je dis, oui, j'ai le temps, je vais voir Martha. C'est de même que ça fonctionne, une inspiration de l'Esprit-Saint. C'est une bonne idée qu'on a de faire quelque chose de bien. Si on le fait, il y a toujours quelque chose de bon qui se produit. Il y a toujours quelque chose qui fait du bien à quelqu'un. Si on ne suit pas l'inspiration, c'est pas péché, c'est pas mal, il se passe rien, tout simplement. Il n'y a rien qui se passe. Et ce à quoi il faut s'habiliter, se rendre capable de, pour prendre un anglicisme, ce à quoi il faut se rendre capable, c'est de reconnaître les appels de Jésus et de les identifier comme étant des appels de Jésus parce que nous savons comment Jésus fonctionne quand il veut nous appeler. Nous reconnaissons sa voix. C'est donc tout au long de notre vie que nous sommes invités à écouter les appels de Jésus, le reconnaître à sa voix. Jésus a vécu avec les apôtres pendant 3 ans. Les apôtres l'ont suivi sur la route. Ils ont vécu avec lui. Et avant de partir, Jésus leur dit, parce qu'il est inquiet, « Ne soyez donc pas inquiets. Vous croyez en Dieu, vous avez confiance en Dieu, ne soyez pas inquiets. Je pars vous préparer une place, et quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Le lieu où je m'en vais, vous en savez le chemin. » Le lieu où je m'en vais, vous en savez le chemin. Le bon Thomas lui dit, « Nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous en savoir le chemin? » Ça faisait 3 ans qu'il était avec Jésus. Et Thomas lui dit, « Nous ne savons même pas où tu vas. Comment on pourrait savoir le chemin? » Et là, Jésus a dû faire une espèce de « Mais ça se peut-tu? » Mais en araméen, je pense, ça se dit pas « ça se peut-tu? » Mais ce qu'il leur a dit, Jésus leur a dit, « Je suis le chemin. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a entendu a entendu le Père. C'est moi le chemin qui vous mène vers le Père. » Même après 3 années passées avec eux autres, Jésus doit encore leur montrer le chemin vers le Père. Il ne faut donc pas se surprendre trop tôt si nous autres, après 50 ans, 25 ans, 50 ans, 60 ans, 60 ans, 75 ans, après avoir été baptisés, avoir connu l'Évangile, il ne faut pas se surprendre si de temps en temps, on ne reconnaît pas le chemin que Jésus nous montre. C'est donc le thème principal de cette année auquel nous arrivons. Jésus nous montre le chemin. C'est bien beau tout ça, mais comment est-ce que Jésus nous montre le chemin? Un chemin qui mène où? Est-ce qu'il y en a plusieurs chemins? Voilà autant de questions qu'on peut se poser d'une manière tout à fait légitime. Comment Jésus s'y prend pour nous montrer le chemin? C'est quoi le chemin, comme Thomas demandait la question? Est-ce qu'il y en a plusieurs chemins? Comment on fait pour suivre le chemin que Jésus nous montre? Je pense que nous pourrions prendre un premier chant, parce que chanter, c'est prier 2 fois, comme on l'a dit, puis Augustin l'a dit aussi, c'est Augustin. Ça va être un peu comme une prière qui va nous faire entrer dans la parole de Dieu qui veut nous montrer le chemin par Jésus. Suivre le chemin. Vous connaissez ça. Suivre le chemin, être son maison. Sur les chemins de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. C'est donc dans les Évangiles qu'on va trouver les réponses aux questions que je viens de poser. Et si vous voulez, on va donc partir ensemble à la suite de Jésus. Jésus nous montre d'abord le chemin de la conversion. Quand on regarde Jésus, il y avait le don, la capacité d'amener les personnes à la conversion, en leur faisant prendre conscience de leurs fautes, de leurs péchés, de leurs limites. On va prendre quelques exemples dans la parole de Dieu. Vous connaissez tous et toutes la rencontre que Jésus a faite à Jérusalem avec celle que l'on appelle la femme adultère qui avait été amenée en pâture à Jésus. Qu'est-ce qui se passe lors de cette rencontre? Lors de cette rencontre, toutes les personnes présentes sont amenées à prendre conscience de leur péché, de leur propre faute. Toutes les personnes qui sont là, pas juste la femme pécheresse, mais tout le monde qui était là. En premier, les hommes, les plus âgés d'abord, qui ont amené à Jésus cette femme pécheresse pour qu'il la condamne. Et en même temps, c'était pour se tendre un piège à Jésus. C'était pour Jésus quelque chose de délicat. Parce que Jésus était pris entre deux feux. D'une part, quand les hommes qui lui apportent cette femme font appel à la loi de Moïse, Jésus sait que c'est écrit dans la loi de Moïse que le peuple juif suit à ce moment-là. Il sait cela. Par ailleurs, Jésus aussi a un cœur miséricordieux. Jésus déteste le péché, déteste la faute, mais il aime le pécheur. Jésus détestait donc l'adultère, comme les Juifs qui amenaient cette femme. Mais au contraire d'eux, Jésus aimait cette femme. Et il avait de la pitié, de la compassion pour elle. Son cœur miséricordieux prenait le dessus. Mais comment sortir de l'impasse? Et c'est vraiment spécial, vous vous rappelez cette scène. Jésus s'assoit par terre et il fait des dessins, quelque chose dans le sable. Bien des personnes, des exégètes ont essayé de découvrir ça pouvait être quoi, est-ce qu'il écrivait des choses, est-ce qu'il écrivait la confession de ces hommes. Nul ne le sait. Et si nous ne le savons pas, c'est parce que c'est pas ça qui est important. Mais ce qui est important, dans ça, moi, ce qui me frappe, c'est que durant ce temps-là, Jésus pensait, réfléchissait et se demandait comment sortir de l'impasse avec un cœur plein de miséricorde. Et l'attitude qu'il avait, je me plais à le voir comme ça, les yeux fermés, il écrit un peu dans le sable et il pense, il réfléchit. Et à un moment donné, l'Esprit-Saint lui inspire, parce que Jésus était rempli de l'Esprit-Saint, l'Esprit-Saint lui inspire la voie de sortie. Il a reconnu la voie de l'Esprit qui l'habitait, l'Esprit de son Père. Il se lève debout et il leur dit, j'imagine, c'est pas écrit dans l'Évangile, mais ça fait rien, on peut bien imaginer ça. Il a regardé dans les yeux tout le monde en pointant du doigt. Celui d'entre vous qui est sans péché, qui lui jette la première pierre. Qui lui jette la première pierre. Et Jésus s'est assis à nouveau. Lui seul, Jésus, aurait pu jeter la première pierre, nous le savons. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont tous parti tranquillement, piteux, l'un après l'autre, en commençant par les plus vieux. Et quand Jésus reste seul avec cette femme, qu'est-ce qu'il lui dit? Personne ne t'a condamné? Va, moi non plus je ne te condamne pas, et désormais ne pêche plus. Jésus a montré à tout ce monde-là le chemin de la conversion. Et aujourd'hui encore, Jésus nous montre à nous le chemin de la conversion, en faisant prendre conscience de nos fautes, de nos péchés, de nos limites. Quand Jésus a dit à cette femme, « Va en paix, désormais ne pêche plus », il lui signifie, il lui fait comprendre trois choses. La première, c'est que Jésus reconnaît qu'elle a péché. Désormais ne pêche plus. Il reconnaît qu'elle a péché. Mais en même temps, il ne la condamne pas. Et en ne la condamnant pas, Jésus, de cette façon, manifeste sa miséricorde et lui montre le chemin de la conversion à prendre pour que, désormais, elle ne pêche plus et qu'elle aime en vérité, qu'elle aime vraiment et non pas d'une manière croche. Jésus agit de la même façon avec différentes personnes. Et je prends les personnes rapidement. Zachée. Zachée qui a le désir de voir Jésus qui monte dans un arbre parce qu'il sait que Jésus va passer par là. Et quand Jésus le voit, il s'arrête pour lui dire « Je vais manger chez toi aujourd'hui. » Et durant le repas, où il y a des publicains comme Zachée, des pêcheurs. Zachée, à un moment donné, s'avançant, dit à Jésus, « Eh bien, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Ce que Zachée fait à ce moment-là, c'est qu'il se reconnaît pécheur. Et c'est Jésus, le fait que Jésus prenne le temps de le regarder, de lui dire « Descends de ton arbre aujourd'hui, je vais manger chez toi », Zachée n'en revient pas, ça dépasse ses espérances. Il voulait, lui, simplement voir Jésus qui passait par là. Il en avait entendu parler. Mais voilà que Jésus lui dit « Je vais manger chez toi ». Ça ne se faisait pas pour un juif religieux d'aller manger chez les pécheurs. Automatiquement, il s'excommuniait de la communauté en mangeant avec les pécheurs. Zachée, ça l'a certainement remué, et il a pris conscience, en étant en contact avec l'amour miséricordieux du Seigneur, de Jésus, il a pris conscience de ses péchés. Et quand on dit que Zachée s'avance, c'est qu'à ce moment-là, Zachée s'est levé debout et est allé parler à Jésus, cœur à cœur, les yeux dans les yeux. La première partie, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Ce geste-là de Zachée, c'est un geste de grande générosité. Et c'est un geste aussi de miséricorde. D'être attentif, Zachée donne son argent aux pauvres. Il n'a pas donné l'argent au temple. Il n'a pas donné l'argent à la synagogue tout près de chez lui. Il donne son argent, la moitié de ses biens, aux pauvres. Zachée s'ouvre à la miséricorde. Et son cœur s'ouvre à la misère des pauvres qui sont là. Jésus l'amène à la conversion. Et par après, et ça c'est important, « Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et Zachée sait pertinemment qu'il a fait du tort à quelqu'un. Comme publicain, il devait ramasser les impôts pour César. Et quand il ramassait les impôts, si quelqu'un devait, là je vais vous parler non pas en euros, mais en dollars. Si quelqu'un lui devait 500 dollars d'impôts, il voyait ça sur le papier, en tout cas. Puis il disait, tu dois 700 dollars. L'autre payait 200 dans ses poches et 500 à César. Peut-être 100 à ses amis publicains, puis 400 à César. Il a fait du tort aux autres. Et en reconnaissant qu'il voulait rendre le quadruple, il se reconnaissait coupable de vol. Dans l'État romain, de ce temps-là, quelqu'un qui était reconnu coupable de vol devait remettre 4 fois le montant volé. Tu voles un petit 25 cents, tu remets 4 pièces, une pièce. Mais si tu voles 1 000 $, tu dois en remettre 4 000. Et plus ça va, plus ça fait mal, pourrait-on dire. Donc, quand Jachée dit « si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui remets 4 fois plus le quadruple », c'est qu'il se reconnaît lui-même comme un voleur et qu'il s'attribue à lui la punition que l'on attribue au voleur. Comme conversion, c'est pas mal. On peut aussi penser à Pierre. Pierre qui était un grand ami de Jésus. Pierre qui, vous le connaissez, Pierre, aussi bien que moi. Pierre qui voulait prendre les devants et qui se voyait comme le grand frère de Jésus, le protecteur de Jésus. Et quand Jésus annonce que, s'en allant à Jérusalem, les grands prêtres, les chefs religieux vont le tuer, là, non, non, non. On pourrait chanter « Suivre Jésus » dans le changement de cassette. Alors, ne soyez pas inquiets, je vais m'organiser pour finir certainement à midi moins 10. Bon. Alors, je pense, on revient, pensons à Pierre. Alors, Pierre, qui se voyait comme le grand frère de Jésus, qui voulait le protéger. Et quand Jésus lui annonce qu'il va se passer à Jérusalem, Pierre dit, « Oh, non. » Moi, je traduis pas littéralement l'araméen, je connais pas ça. Mais, « Oh, Seigneur, ça se passera pas demain. On va y voir. » Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Et pas en badinant, mais probablement de manière assez raide, assez claire. « Passe derrière moi, Satan. » Pour nous autres, le mot « Satan », ça a une connotation spéciale. Mais « Satan », ça veut dire « l'adversaire ». Satan, c'est celui qui nous met des bâtons dans les roues, qui veut nous empêcher de fonctionner, de faire ce qu'on veut faire vraiment. Et quand Jésus lui dit « Passe derrière moi, tu comprends pas mon projet, tu te situes face à moi comme l'adversaire du projet. » Et en lui disant « Passe derrière moi », Jésus voulait lui signifier qu'il était le disciple, parce que le disciple, c'est celui qui marche derrière le maître, il était le disciple et non pas le maître. Le maître, c'était lui, Jésus. Et d'ailleurs, il leur a rappelé à la dernière scène au lavement des pieds. « Vous m'appelez le maître, et c'est vrai, je suis votre maître. » Et Pierre voulait se prendre pour le maître. Et Jésus le ramène, « Marche derrière moi, c'est-à-dire, tu es disciple, reste disciple. » Pierre, il se guérissait pas. À un moment donné, quand c'est arrivé à la dernière scène, c'était la même chose. Pierre... quand Jésus lui dit qu'il savait qu'il serait pour mourir, Pierre, il dit, il y a des épées, on va s'organiser, ça ne passera pas demain. Et Jésus l'avertit. Avant que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Pierre n'a pas compris ça. Il n'a pas compris du tout ce que Jésus disait. La preuve, quand ils se retrouvent tous au jardin des Oliviers avec lui, Pierre sort son épée puis tranche l'oreille du serviteur Malchus. Il n'avait pas compris du tout quand Jésus lui a parlé de ne pas prendre l'épée et qu'il le trahirait. Et on le voit, c'est ce qui se passe dans la cour du grand prêtre. Par 3 fois, Pierre trahit Jésus. Et quand Jésus passe, Pierre le voit, Jésus se retourne vers lui et le regarde. Par le regard de Jésus, plein de bonté, de compréhension, aucun blâme dans le regard de Jésus, c'est certain. Pierre comprend. Et là, dans un éclair, tout s'éclaire. Dans une fraction de seconde, tout s'éclaire. Et là, il comprend ce qu'il vient de faire. Il me l'avait dit. Et Pierre éclate en sanglots. En certaines circonstances de notre vie, Jésus nous fait donc prendre conscience à nous aussi de nos fautes, de notre péché. Et nous vivons, nous aussi, à ce moment-là, des moments de rencontre personnelle, exceptionnelle avec Jésus. Ces rencontres peuvent se faire à l'occasion d'un sacrement du pardon, peuvent se faire dans une retraite, peuvent se faire à l'occasion d'une lecture. Mais quand ça se produit, nous savons, nous reconnaissons la voix de Jésus qui nous parle, qui nous rejoint. Et quand on ressort de ces moments-là, quand on les vit pleinement, nous en ressortons ressuscités, si l'on peut dire. Quand nous avons vécu de telles expériences de miséricorde de la part du Seigneur, nous savons ce que les témoins de l'Évangile eux-mêmes ont vécu avec Jésus, personne en leur temps. Passons maintenant à un autre chemin. Jésus nous montre le chemin de la foi. Ce chemin que Jésus montre à diverses personnes, c'est à des gens qu'il a rencontrés sur la route, ou des personnes qui allaient à lui. Et à chacune des rencontres où Jésus montre le chemin de la foi, ça se termine toujours par un refrain qui ressemble à ceci. « Va, ta foi t'a sauvé. Va, qu'il t'advienne selon ce que tu as cru. » C'est la confiance en Jésus, la confiance en Dieu, qui est le chemin de la foi. Là encore, je prends quelques exemples dans l'Évangile pour voir de quoi ça a l'air, quand Jésus montre le chemin de la foi. Jésus était passé par Jéricho, et à la sortie de Jéricho, il y avait un aveugle qui s'appelle Bartimée. Bartimée, quand il a entendu le bruit un peu, les gens qui marchaient, le brouhaha de la foule, il a demandé aux gens alentour, « Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? » Et on lui dit, « C'est Jésus de Nazareth qui passe avec ses disciples et avec une foule. » Et à ce moment-là, Bartimée se met à crier de plus belle, « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Et plus ça allait, plus il criait fort. De sorte que les gens alentour, là, ils n'aimaient pas ça. On n'aime pas ça. Moi, je demeure sur Saint-Joseph. Et quand on voit des gens qui ont consommé, non pas juste de l'aspirine, là, et qui crient fort sur la route en marchant et qui crient dans le milieu du chemin, il n'y a personne qui aime ça. On ne file pas bien. Et c'est ce que Bartimée faisait. Il s'est mis à crier. Et là, les gens, ils faisaient peur. Hey, « Tais-toi, arrête. » Et Jésus, qui entend, Jésus l'appelle. L'appel de Jésus. Jésus appelle, faites-le venir. Et Bartimée, qui n'en croit pas ses oreilles parce qu'il n'était pas sourd, met son manteau, laisse tomber son manteau et part, j'imagine, en se dirigeant vers le son de la foule, part en courant, en trébuchant vers Jésus. Et ce que Jésus lui pose comme question, c'est vraiment beau. Que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus le laisse libre de son choix. Si Bartimée avait dit « De toute ma vie, je passe mon temps à quêter, à quémander, je ne sais pas où je vais coucher le soir, je ne sais pas ce que je vais manger, je ne sais pas. » Seigneur, fais que je n'ai plus à quêter, que je n'ai plus à avoir le souci de chaque jour, de manger chaque jour. Seigneur, fais ça. Il est clair et net que c'est ce que Jésus aurait fait. Sinon, il n'aura pas demandé « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Puis après, pas s'occuper de sa réponse, puis dire « Sois guéri. » Jésus mettra, respecte sa liberté. C'est important de le savoir, nous autres, aujourd'hui, que Jésus respecte notre liberté. Bien sûr, souvent, on a une idée, une bonne idée de ce que Jésus veut pour nous, c'est évident. Mais il respecte notre liberté. Il ne nous force jamais. Il ne décide pas pour nous. Et quand Jésus demande à Bartimée, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » La réponse de Bartimée, « Rabboni, que je retrouve la vie. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Dans la rencontre de Jésus avec Bartimée, Jésus nous montre à nous aujourd'hui le chemin de la foi, de la confiance en Jésus, en Dieu. Et il nous apprend qu'il ne faut pas se gêner jamais de crier vers Dieu s'il y a des choses qui nous font mal, s'il y a des réalités de la vie qui nous blessent profondément. Bartimée a crié vers Jésus. Jésus s'est arrêté et il l'a appelé « Amenez-le-moi ». C'est le même Jésus aujourd'hui, vivant, ressuscité, qui nous dit à nous la même chose. Tu cries vers moi, viens, viens vers moi. Et à chacun, chacune, il va demander, que veux-tu que je fasse pour toi? Et nous serons libres de donner la réponse que nous voudrons, sûrement et simplement, sachant que Jésus va nous dire à nous aussi, va, ta foi t'a sauvé. Un autre exemple qui est beau aussi, qui est bon, c'est la rencontre de Jésus avec le centurion romain. Parce que cette rencontre-là, elle a vraiment quelque chose de spécial. Le centurion romain, c'est l'ennemi du peuple juif. Le peuple juif, à ce moment-là, était sous la domination des Romains. Et quand un centurion romain vient demander à Jésus, un juif, une faveur pour son esclave, ça dépasse les bornes. Ça dépasse les bornes pour les gens qui sont alentour. Ça dépasse les bornes aussi pour Jésus d'une certaine façon. Et surtout, quand Jésus dit, se lève, parce qu'il est en train de parler avec du monde, se lève et dit, je vais aller chez toi pour le guérir, pour le voir. La réponse du centurion qu'on retrouve dans la prière, nous autres, avant la communion, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Pourquoi? Et c'est ça qui est beau. Pourquoi il dit, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi? Parce que, dit-il, moi, centurion romain, j'ai des gens sous mes ordres. Et quand je dis à un soldat, viens, il vient. Quand je dis à un esclave, fais ceci, il le fait. Je ne voudrais pas que tu considères ma demande comme un ordre que je te donne. C'est ça que ça veut dire. Je ne voudrais pas que tu considères ce que je te dis comme une obligation, un ordre à suivre parce que je suis un centurion romain. Non, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Et là, Jésus est bouleversé. Il est bouleversé parce que, dit-il, je n'ai jamais vu en Israël une foi semblable. Je n'ai jamais vu dans mon peuple une foi semblable à celle de ce Romain, dominateur, étranger. Et Jésus lui dit, à lui aussi, rentre chez toi, va chez toi, rentre chez toi, qu'il te soit fait comme tu as cru. Le centurion avait la foi, croyant Jésus, mais la façon dont Jésus a réagi, il a montré à ceux qui l'entendaient, il leur a montré quel était le chemin de la foi véritable, de la confiance sans bornes que nous pouvons, que nous devons donner à Dieu. Enfin, un dernier exemple, celui de la Cananéenne, une païenne, une étrangère. Jésus était allé dans le pays de la Phénicie, je crois, car en tout cas, peu importe, mais il s'était retiré dans ce pays, dans ce coin de pays, pour prendre un temps de repos, sortir de la Judée, pour aller. Bon. Et voilà qu'il se présente à lui une Cananéenne qui lui demande de guérir sa fille. Et la façon dont Jésus réagit, c'est questionnant. Et ça nous montre que Jésus, c'était vraiment un être humain à part entière et qu'il était touché, je dirais, il était imprégné des préjugés de son peuple, de sa religion, la religion juive. Et quand elle demande, cette Cananéenne, de guérir sa fille, Jésus réagit comme un juif et un juif religieux de son temps. Et il lui dit, « Femme, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. » C'est, pour nous autres, ça claque vraiment, cette phrase de Jésus. Parce que les petits chiens, le chien, dans le langage du temps, les païens, ceux qui n'étaient pas juifs, on les traitait de chiens. C'était le langage habituel. Nous autres, ça a traiter quelqu'un de chien, ça a vraiment une connotation très, c'est terrible. Mais dans le temps de Jésus, cette phrase-là, c'était comme ça. C'est un peu, pour prendre un exemple, mais la façon dont on parle de des gens qui ne parlent pas français, bien, on va dire des mots, des expressions qui ne sont pas méchantes, mais qui, c'est de même qu'on parle. On va parler des têtes carrées. Et quand on parle des têtes carrées, tout le monde sait de quoi on parle. C'est pas méchant, mais ça fait partie des préjugés qui nous sont inculqués à nous, aujourd'hui, au Québec. Même chose pour Jésus. Et la réponse de cette femme, c'est ça qui a viré Jésus à l'envers, qui l'a chamboulé complètement. Elle lui dit, « C'est vrai, Seigneur, tu as raison. On ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Mais les petits chiens lèchent les morceaux de pain qui tombent de la table des enfants. » Jésus est complètement bouleversé. La réponse qu'elle lui fait vient complètement briser, jeter à terre ses préjugés. Et cette femme, qui est une païenne, qui est une cananéenne, elle lui fait en quelque sorte la leçon. Et Jésus ne peut pas faire autrement que de lui dire, à elle aussi, « Femme, ta foi est grande. Qu'il t'arrive comme tu veux. Va, ta fille est guérie. » Et sa fille fut guérie à cette heure-là. Jésus, dans les rencontres qu'il fait, admire et plein d'admiration pour la foi, la confiance que les gens lui font à lui. Et il profite de ces occasions-là pour montrer le chemin de la foi à ceux et celles qui l'accompagnent. On pourrait se dire, les apôtres, les disciples, ils avaient certainement la foi. Bien sûr qu'ils avaient la foi, ils avaient confiance en Jésus, ils avaient confiance en Dieu. Mais cependant, ils vivaient aussi des manques de foi, comme nous vivons des manques de foi. Et dans l'Évangile, on en voit des exemples. À un moment donné, Jésus arrive, il y a une espèce de rassemblement, puis il dit, « Qu'est-ce qui se passe? » Alors un père tout éploré vient le trouver et dit, « Maître, si tu peux faire quelque chose pour mon enfant, fais-le. » Il est pris d'un esprit mauvais. Et cet esprit-là le jette dans le feu, le jette dans l'eau. C'est terrible ce qu'il lui fait vivre. Si tu peux quelque chose, fais-le. Puis, il lui dit, les disciples, je l'ai demandé aux disciples, ils n'ont pas pu rien faire. Mais toi, si tu le peux, guéris-le. Et Jésus dit, je le peux. Et à l'instant, il a commandé aux esprits mauvais de sortir de cet enfant et il fut guéri. Les disciples, quand ils sont revenus à la maison, ça les avait un peu surpris que Jésus leur dise « c'est parce qu'ils n'avaient pas la foi trop trop ». Comment ça se fait que nous autres, disait-il, on n'a pas pu chasser les démons? Et Jésus leur dit « c'est à cause de votre manque de foi ». C'est à cause de votre manque de foi. Et Jésus enchaîne en leur disant « si vous aviez la foi gros comme une graine de sénévé, c'est une petite semence de rien, vous diriez à cette montagne « déplace-toi et jette-toi à la mer » et elle irait. Vous direz à cet arbre « déracine-toi et va te planter ailleurs » et il irait. Si vous aviez de la foi gros comme cela. Les disciples, eux aussi, manquent de foi à l'occasion. C'est la même chose pour nous. Ça nous arrive de manquer de foi. Un autre chemin. Jésus nous montre le chemin du service fraternel. Et là, on en a beaucoup d'exemples de personnes qui vivent le service fraternel. Les exemples que je vais prendre, c'est des exemples que vous connaissez tous. Et le premier qui peut nous sauter aux yeux, c'est le bon samaritain. Mais avant d'avoir l'histoire du bon samaritain, il y a un prologue, il y a quelque chose qui est passé avant. C'est un scribe qui rencontre Jésus, qui veut lui faire passer un examen. « Maître, dit-il à Jésus, tu connais la loi, c'est quoi le premier commandement? » Tout juif savait ça. Le premier commandement, lui dit Jésus, c'est « aime le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. » Et le second, qui lui est semblable, rajoute Jésus, « aime ton prochain comme toi-même. » Et le scribe qui voulait se montrer bien, que de montrer qu'il était tout de même quelqu'un qui connaissait l'Écriture, il dit « oui, c'est vrai, aime ton prochain comme toi-même, mais qui est mon prochain? » Et là, Jésus, quand on lui ouvre une porte, il la prend. Et Jésus lui donne un exemple, on va le voir là, un exemple qui le punch vraiment. Il se fait attraper. Et il lui raconte l'histoire du bon samaritain. Vous la connaissez, mais moi je trouve que c'est toujours, j'aime toujours ça, je trouve ça toujours le fun de la raconter. Alors, c'est un samaritain qui fait un voyage de Jérusalem à Jéricho, me semble. Et des voleurs, des bandits, en chemin, l'attaquent et le laissent dans le fossé. Un prêtre passe par là. Mais là, ce pas des prêtres comme moi. Là. C'est d'autres sortes de prêtres de ce temps-là. Un prêtre passe par là et change de côté pour éviter. Après ça, il y a un lévite. Ça ressemble à moi, des prêtres d'aujourd'hui, ça ressemble au lévite. Un lévite passe, même chose, il passe à côté. Arrive un samaritain qui voit le juif dans le fossé. Il s'arrête, pense à ses plaies, il met de l'huile avec du vin, tout ça, c'était les remèdes du temps. Puis il le met sur sa monture, l'amène dans un hôtel, et là, il dit à l'hôtelier, « Prends-en soin, je repasse dans 2 jours tout ce que tu auras fait pour le guérir, pour en prendre soin, je te le rembourserai en revenant. » La question de Jésus, on l'a souvent tournée un peu de travers, on l'a détournée de sens, je pense. Jésus demande à ce scribe, « Qui est le prochain de la personne qui était dans le fossé? » Il ne lui demande pas qui était le prochain du Samaritain, mais qui était le prochain du Juif qui était dans le fossé. Et le scribe répond, le prochain de lui, c'est le Samaritain. Et Jésus lui dit, bien va, et toi aussi fais de même. Ça se passe vite, là, quelques lignes dans l'Évangile. Mais tout ce qu'il y a de sous-tendu, de sous-entendu là-dedans, c'est puissant. Le Juif, il est dans le fossé. C'est un Samaritain qui s'arrête. Les gens de son peuple, les gens de sa religion ne sont pas arrêtés, prêtres, lévites, ne sont pas arrêtés pour prendre soin de leurs frères juifs. Mais c'est un Samaritain qui était l'ennemi des Juifs. Samaritain et Juif, ça ne marchait pas ensemble, c'était chien et chat. C'est un Samaritain qui arrête pour prendre soin d'un Juif. Et quand Jésus demande aux Juifs, aux scribes, qui est le prochain du Samaritain, il l'oblige à répondre, le prochain du Juif. Il l'oblige à répondre, le prochain du Juif, c'est le Samaritain qui a pris soin de lui. Et quand Jésus lui dit, va et fais de même, Jésus lui dit, si un Samaritain se retrouvait dans le fossé, c'est ton prochain, tu en prendras soin. C'est de cette façon que Jésus montre le chemin du service fraternel. Pas juste à ceux qui sont proches, à ceux qui sont bons, à ceux que l'on aime bien, mais aussi à toute personne qui est dans le besoin. Et ça, c'est pas facile. Jésus le savait. Il disait, par ailleurs, si vous aimez juste ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? C'est pas difficile, pas dur, moi, un matin, de vous aimer. Si vous faites du bien uniquement aux gens qui vous font du bien, c'est pas difficile. Les païens en font autant avec les autres païens. Les voleurs en font autant que les autres voleurs. Vous, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait, en aimant toutes les personnes qui se présentent à vous et qui sont dans le besoin. Pourquoi? Parce que Dieu, ne fait pas de différence entre les personnes. Il fait briller son soleil, il donne la chaleur de son soleil autant aux bons qu'aux méchants. Il fait tomber la pluie, la fécondité de la pluie, autant sur les justes que sur les injustes. Il ne fait pas de différence. Vous donc, ne faites pas de différence. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est de cette façon que Jésus montre le chemin du service fraternel. On n'aura pas de chance parce que, à 5 minutes, je devrais y arriver. Un autre point, Jésus nous montre un autre chemin, le chemin de l'accueil. L'accueil des tout-petits, l'accueil des enfants. Les apôtres, à un moment donné, Jacques et Jean, puis les autres, se demandaient, c'est qui le plus grand dans le royaume des cieux? C'est qui le premier? Jésus avait entendu ça, il parlait de ça en marchant. Quand il arrive à la maison, il leur dit, de quoi vous parliez en chemin? Faisant un peu de niaiseux. Là. Ils savaient bien de quoi il avait parlé. Alors les apôtres, ils ont baissé les yeux, ils savaient que Jésus savait. Alors Jésus leur a donné une leçon. Il a pris un petit enfant, il l'a amené au milieu d'eux. Le simple fait de prendre un enfant et de l'amener au milieu d'eux, c'est déjà parlant. Parce que dans ce temps-là, les enfants, c'était plutôt des quantités négligeables, si on veut, contrairement à aujourd'hui, bien sûr. Il n'y avait pas de DPJ dans le temps, loin de là. Place un enfant au milieu d'eux. Il leur dit simplement, celui qui va être le premier dans le royaume des cieux, qu'il devienne semblable à ce petit enfant. Pourquoi? Parce que celui qui accueille un enfant comme celui-là en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, il accueille le Père qui m'a envoyé. Vous voyez l'échelle? L'enfant qui accueille l'enfant au monde m'accueille moi. Qui m'accueille moi accueille le Père qui m'a envoyé. Mais ce sont les barreaux d'une même échelle. C'est le même chemin. Jésus leur montre ainsi le chemin de l'accueil. Accueil des petits. L'accueil aussi des rejetés de la société. C'est important pour nous, ça, aujourd'hui. L'accueil des rejetés de la société. Et les rejetés de la société, l'image la plus forte, ce sont les lépreux. Les lépreux étaient considérés comme impurs. Et si vous avez vu le film Ben-Hur, qu'on revoit à chaque semaine sainte, les lépreux doivent rester loin du monde, qui sont en bonne santé, se cacher, et quand ils s'approchent, ils doivent sonner une clochette pour signifier qu'ils s'approchent. Ils sont déclarés impurs, sont excommuniés de la religion, on ne peut pas leur toucher. Et Jésus, lui, accueille les lépreux. Et même plus, il les touche. Quand un lépreux s'approche de lui, Jésus, il demande à Jésus, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Mais si tu ne le veux pas, tu as le droit de ne pas le vouloir, je suis un lépreux, je suis impur, tu peux ne pas me guérir. Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Et à l'instant même, il a été purifié de sa lèpre. En guérissant un lépreux, comme il en a guéri 10 à un autre moment, Jésus voulait montrer à ses disciples et nous montrer à nous qu'il y avait un chemin qui s'appelle le chemin de l'accueil et qui nous amène à accueillir les rejetés de la société. C'est pas facile d'accueillir les rejetés de la société. C'est pas facile. Parce que ça rebute. Et la première réaction qu'on a, c'est une réaction de les rejeter, de les éloigner, de se choquer. C'est enregistré, mais je vais le compter quand même. La semaine dernière, vous savez, je demeure à Saint-Roch. J'aime Saint-Roch. J'aime les gens de Saint-Roch. Arrive un type, je venais de garer mon auto, arrive un type en fauteuil roulant qui avait, probablement qu'il s'était cassé une jambe parce qu'il y avait une espèce de jambière. Et je lui dis bonjour, puis il prend le même trottoir que moi pour rentrer par le sous-sol dans l'église. Je lui dis, où est-ce que vous allez? Excusez, mais c'est un peu brutal. Il dit, je m'en vais pisser. Mais j'ai dit, où? Il dit, dans le coin là-bas. Qu'est-ce que vous pensez de ma première réaction? J'étais de mauvaise humeur. Et là, ma première réaction, c'était de lui dire, où tu demeures, toi? Ben, il dit, je reste quelque part par là. Ben, il dit, amène-moi chez toi, je vais aller pisser chez vous. Réaction qui n'est pas du tout chrétienne. Mais, grâce à Dieu, ça s'est fait vite, ça. Je lui ai dit, garde, je peux te donner quelque chose, je peux te dire quelque chose. Si vraiment ça presse beaucoup, je peux pousser ton fauteuil roulant, puis on va aller au 525. 525, c'est l'accueil qui est ouvert, puis il y a une rampe. Et il y a des toilettes. J'ai dit, si ça presse, je vais y aller avec toi, puis je vais te rentrer au... Non, il dit, je suis capable d'y aller. Alors j'ai dit, merci beaucoup. Il dit, c'est moi qui vous remercie de m'avoir parlé comme ça. Là, moi, je me suis dit, parler comme ça, c'est-il le premier bout du mon merci, où je lui ai demandé où il restait, ou la deuxième partie. Mais, à bien y penser, c'est les deux. C'est les deux. À la manière de Jésus, qui a dit à la Cananéenne, pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. C'est de même que j'ai réagi moi aussi. Et par après, quand il m'a regardé en souriant, il n'était pas choqué du tout, ça m'a amené à être à mon tour punché, si on veut, et sortir de mon préjugé. Alors, c'est ça. C'est fini. Alors, la cassette est finie. Voilà. Alors, le restant, ça va, c'est pas... Il y aura la rencontre avec le jeune homme riche. Bon. Alors, pour terminer, Jésus, dans tous les chemins qu'on a vus, veut nous amener, nous autres aussi, à le reconnaître pour ce qu'il est, le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Messie. C'est ce que Simon-Pierre a affirmé, a confessé, quand Jésus leur a demandé, « Pour vous, qui suis-je? » Pierre a reconnu, « C'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et quand la même question nous est posée à chacun, chacune d'entre nous, nous allons donner la même réponse. Parce que nous avons confiance en Christ, nous avons confiance en Jésus, nous savons qu'il est vivant, qu'il est au milieu de nous. Et à la dernière scène, Jésus montre le chemin qui résume tous les autres chemins. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous devez vous aussi vous aimer les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples et que vous suivez les chemins que je vous montre. » Les chemins que Jésus nous montre à nous aujourd'hui, c'est des chemins où il veut que nous soyons heureux. C'est donc dans cette première rencontre que nous sommes introduits à toutes les autres rencontres qui porteront sur les béatitudes, où Jésus nous montre des chemins pour être heureux, vraiment heureux. Être heureux parce que nous nous reconnaissons comme pauvres, être heureux avec les pauvres. Être heureux avec ceux et celles qui ont faim et soif de justice. Heureux avec ceux et celles qui ne cherchent pas la chicane, mais sont des artisans de paix. Être heureux avec ceux qui ont le cœur ouvert à la misère des autres, miséricordieux, comme nous en parle l'évêque de Rome, le pape François. Être heureux à la manière de Marie. Bienheureux sommes-nous, nous à qui Jésus montre les chemins du bonheur. Et c'est tout au long de l'Évangile que nous pouvons découvrir ces chemins avec Jésus. Amen.